Fidèle à nos habitudes, le jeudi après-midi, on retrouve Olivier Beauregard pour parler sport. Olivier, bonjour.
Salut.
On va parler du marché des transactions dans la LNH. Ça se terminait vendredi passé. Ça a bougé quand même pas mal, mais pas chez le Canadien.
Non, exactement. Il y a bien des partisans du Canadien de Montréal qui ont été déçus de voir que Kent Hughes a décidé de ne pas bouger à la date limite des transactions. Honnêtement, dans mon cas, pas tellement surpris parce que je pense que s'il y a des choses dont Kent Hughes nous a habitués depuis son arrivée en poste, c'est de suivre son fameux plan. Et son plan, c'était vraiment pas de tout basculer pour essayer de faire un push en séries éliminatoires cette saison. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai l'impression que le Canadien a décidé de pas bouger à la date limite des transactions. Peut-être également que les offres étaient pas bonnes pour le CH. Mais, tu sais, quand j'ai écouté le point de presse de Kent Hughes, ce que j'ai aimé, c'est que Kent Hughes a dit, c'est un peu un vote de confiance que j'ai fait à mes joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui voulaient rester. Tu sais, on s'est parlé du dossier de Jake Evans. On lui a accordé une prolongation de contrat. On le garde à Montréal. On décide que les joueurs qui sont là sont les joueurs avec lesquels on veut évoluer pour le restant de la saison, qu'on croit, en fait, qu'on pense qu'on pourrait peut-être avoir une participation aux séries éliminatoires. Donc, c'est un beau vote de confiance du directeur général envers son équipe. Je pense que les joueurs l'ont apprécié. Nick Suzuki avait eu une discussion justement avec Kent Hughes avant la date limite en disant, écoute, j'aimerais vraiment ça qu'on bouge le moins possible. Puis cette discussion-là semble avoir porté ses fruits. Donc, le Canadien qui garde essentiellement la même formation. C'est sûr qu'avec la blessure de Kirby Dach, je pense qu'on pouvait peut-être s'attendre à un deuxième centre par le biais d'une transaction qui pouvait arriver à Montréal. C'est pas arrivé. Puis c'est correct. Je veux dire, le Canadien veut pas hypothéquer son avenir. Sauf qu'en même temps, je peux comprendre également qu'il y a des gens qui se posent des questions en disant ça va prendre combien de choix de ronde pour que le Canadien soit satisfait et décide de bouger pour aller chercher des joueurs concrètement. Parce que le Canadien, là, c'est une équipe qui a excessivement, énormément, donné tous les qualificatifs que vous voulez, mais ils ont tellement de choix de repêchage qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir que le Canadien se tourne vers ces choix-là pour s'en servir pour justement là, faire des transactions, aller chercher des joueurs actifs pour peut-être échanger des choix parce que éventuellement, si tu continues toujours à repêcher, mais que ces gars-là prennent faut qu'il y ait une période d'adaptation, que ça prenne un temps avant d'arriver dans la Ligue nationale, ben ton équipe arrivera jamais à maturité puis jamais à terme pour essayer de remporter une Coupe Stanley. Il y a des marchés qui ont bougé, je pense entre autres à Ottawa. Les Sénateurs n'ont pas chômé, là, je veux dire, sont allés chercher Dylan Cousins. Ça a fait beaucoup jaser dans la région de la capitale nationale parce que c'est Josh Norris qui est parti à Buffalo dans cette transaction-là. Josh Norris qui est un joueur très prometteur, un joueur que ça fait des années qu'on dit que il devrait connaître là, son pic éventuellement, ses meilleurs moments. Le problème avec Josh Norris, c'est que oui, c'est un excellent centre, mais c'est un gars qui est constamment blessé. Il est tout le temps à l'infirmerie. Il n'a pas été capable de finir une saison dans la Ligue nationale. Alors, je pense que du côté des Sénateurs, on a voulu se protéger. On a dit, savez-vous quoi, on va échanger un jeune joueur prometteur qui a déjà quelques saisons derrière la cravate pour aller en chercher un qui a autant de saisons derrière la cravate, mais qui va apporter peut-être un aspect différent, qui est un joueur de centre en Dylan Cousins. Et moi, je pense que c'est une excellente transaction des Sénateurs parce que Dylan Cousins, c'est le genre de joueur que les Sénateurs avaient besoin sur un deuxième trio, c'est-à-dire peut-être un peu moins d'habileté naturelle, mais plus de papier sablé, je vais dire ça comme ça. Puis je pense que son impact a été ressenti là, lors des premiers matchs. Les Sénateurs qui sont sur la voie de participer aux séries parce qu'ils enchaînent les victoires, ça va bien. On a l'impression que cette équipe-là est en mission. Puis je pense que Steve Steos, le directeur général, a lancé un message à son équipe en disant « Je vais aller vous chercher des éléments, mais décevez-moi pas à la fin de l'année. » Donc, coup de chapeau aux Sénateurs dans cette marché des transactions-là. Puis ben les grands noms qui ont bougé, je pense que tout le monde a vu Brad Marchand quitter les Bruins de Boston. Pas mal bizarre, là. Je veux dire, il a toujours été associé aux Bruins depuis le début de sa carrière. Il s'en va maintenant avec les Panthers de la Floride. Je vais vous dire une affaire, l'équipe qui va affronter les Panthers au premier tour et en séries éliminatoires points, ils vont avoir, beaucoup de travail, de beaucoup de pain sur la planche parce que quand tu as des joueurs comme Matthew Tkachuk, Sam Bennett et maintenant Brad Marchand, ça risque d'être fatigant, là. Ça risque d'être un petit peu tannant. J'ai comme l'impression que ça va être du hockey de séries éliminatoires que les Panthers vont nous donner, puis du gros hockey physique. Ça va être intéressant. Alors, ouais, c'est ce que j'ai retenu du marché des transactions. Tu sais, il y a eu d'autres mouvements importants, là, J.T. Miller qui retourne à New York. Il y a eu des transactions comme ça. Mikko Rantanen qui avait été échangé plus tôt. en Caroline, puis qui a décidé finalement de ne pas vouloir signer. Il avait fait savoir à l'organisation des Hurricanes qu'il n'allait pas rester là, et on a décidé de le transiger à Dallas contre Logan Stankoven, qui pour moi va devenir un très, très bon joueur dans la Ligue nationale. Alors, je pense que les deux parties ont gagné dans cette transaction-là. Donc, c'est ce qui a retenu pas mal mon attention. Ça a été un marché des transactions pas mal intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'excitation parce que ça a bougé la journée même des transactions. Mm-hmm. Alors, ça, c'est, je pense que c'est ça qui a rendu la chose intéressante.
Oui, parce que dans les dernières années, c'était plus tranquille la journée même, il me semble, que ça faisait un bout de temps.
Toutes les transactions, oui, tu as raison, parce que c'est que toutes les transactions se faisaient avant. Fait que la journée de la date limite, ben, tout le monde avait fini leur magasinage. T'sais, c'est comme si tu attendais au 24 pour aller magasiner à Noël. généralement, les gens y vont avant. T'sais. Fait que ça avait été un peu ça. Mais cette année, t'sais, je reviens sur la transaction de Brad Marchand, ça s'est fait à minuit moins une. Je veux dire, la date limite pour soumettre les papiers à la Ligue nationale, c'est le 7, mais c'est surtout à 15h. C'est l'heure que tu ne peux plus faire de mouvement. Et à 15h04, je pense qu'on annonçait que Brad Marchand était devenu un membre des Panthers de la Floride parce que les papiers avaient été envoyés à la dernière minute à la Ligue nationale. Donc, par le temps que la Ligue nationale accorde la transaction, ben c'était vraiment à la toute fin. Alors, non, ça a rendu la chose pas mal plus intéressante cette année.
Parlons maintenant du marché des joueurs autonomes dans la NFL et de certains qui devraient prendre exemple sur Josh Allen, tu me disais.
Ouais, puis là, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse parce que je vous rappelle à toutes les semaines que je suis un grand partisan des Bills de Buffalo, mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est que je pense vraiment que Josh Allen a lancé un grand message dans la NFL. Il s'est entendu sur une prolongation de contrat récemment de 6 ans, 350 millions de dollars. C'est pour certains, on va dire que c'est énorme, puis vous avez raison, là, c'est énorme, 350 millions de dollars en 6 ans. Mais c'est pas ça qui est important là-dedans. Quand tu regardes les salaires que les corps arrière vedettes de la NFL remportent, tu dis que le contrat de Josh Allen, c'est pratiquement un aubaine, là. Parce que ce gars-là a signé une entente avec les Bills parce qu'il veut jouer à Buffalo, puis pas parce qu'il aurait pas pu avoir mieux ailleurs. Au contraire, je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus ailleurs, surtout qu'il vient de connaître sa meilleure saison en carrière, qui a été nommé le joueur par excellence de la NFL cette année. Tu sais, il aurait pu commander un méchant gros salaire, là.
Mais c'est pas qu'une question.
On peut avoir un peu chaud quand il a remporté le MVP, là, parce qu'on dit, oh, il faut négocier avec lui après ça. Mais ce que j'ai aimé, puis c'est là où je veux en venir, Sébastien, c'est que ils ont commenté le dossier. Josh Allen a parlé à la presse. Et il y a un journaliste qui a dit, écoute, on regarde les contrats qui ont été accordés. Dak Prescott, lui, avec les Cowboys de Dallas, qui est un bon carrière de la Ligue, mais il n'a pas le statut de Josh Allen, a un contrat de 5 millions de dollars de plus que toi. Tu vas me dire, sur 350, c'est pas grand-chose, mais pour les joueurs, des fois, c'est une marque de respect, tu comprends. C'est donne-moi un petit peu plus pour qu'on montre que je vaux plus que lui. Et dans le cas de Josh Allen, il a dit, et je vais le citer, il dit, de mon point de vue, il dit, c'était pas vraiment moins. C'est bizarre de dire ça, mais en voyant les gros montants qui sont consentis à travers la Ligue, qu'est-ce que 5 millions de dollars va rapporter de plus à ma vie que je peux pas déjà avoir? J'ai une belle vie, j'ai une maison et une voiture. Donc, tout va bien. J'ai pas besoin de plus. Moi, ce que je voulais surtout, c'est que mon contrat n'impacte pas la masse salariale des Bills pour qu'on continue vers l'objectif qui est de remporter le trophée Vince Lombardi, soit le Super Bowl. Écoute, tous les joueurs pensaient comme ça, c'est phénoménal, là. Si tous les joueurs pensaient comme ça, Sébastien, là, ben, il y a des équipes qui connaîtraient pas des déchéances, puis il y a des équipes qui connaîtraient des saisons, avec succès année après année. Il y aurait une plus grande parité dans la NFL parce que tu joues pour gagner, tu joues, pour être, si tu veux, fidèle à ton organisation. Tu sais, Marc Bergevin a déjà dit, si tu veux être fidèle, achète-toi un chien, là. Ben, dans la Ligue nationale de hockey, c'est peut-être comme ça, mais là, Josh Allen vient de prouver dans la NFL que même si t'es une super vedette, même si t'es une étoile montante de ce circuit-là, si t'as le goût de jouer pour les bonnes raisons, tu peux le faire, puis tu peux vouloir aider ton organisation à aller chercher des effectifs. Et je vais te le dire, c'est exactement ce qu'on a fait. On a re-signé Shakir, on a re-signé Bernard, Greg Rousseau également, et on est allé chercher un joueur de la trempe de Joey Bosa. Moi, je pense que Josh Allen a lancé un message à son organisation en acceptant un contrat moindre et on l'a bien répondu en allant chercher des joueurs de qualité et en re-signant des joueurs importants de cette équipe-là. Alors, chapeau à Josh Allen. Go Bills, go! Puis en espérant que la prochaine saison sera la bonne pour Buffalo.
Ben c'est parfait parce que tu sais un Super Bowl, ça se gagne pas tout seul. Fait que t'as bien beau avoir le meilleur salaire de ta gang, ça, si t'es tout seul à ramer dans le bon sens, ça ira pas bien loin.
Parlez-en à Pat Mahomes. je veux dire, lui avec les Chiefs de Kansas City, on dit que tant qu'il est là, on a une chance de gagner le Super Bowl. C'est vrai. Sauf que cette année, je pense que les effectifs ont fait en sorte que on est venu à court au match ultime. Puis l'autre chose, c'est que on va le voir de plus en plus. Il y a des joueurs qui demandent de restructurer leur contrat pour permettre d'enlever un certain montant sur la masse salariale de l'équipe. Pat Mahomes le fait, chapeau à lui, parce que là, il est au courant que s'il veut continuer à gagner des championnats, ben, il va falloir qu'il soit un petit peu moins gourmand.
Parlons maintenant UFC, Olivier, et de Marc-André Barriot, là, le Gatinois qui ben, a un prochain affrontement à l'horaire.
Oui, 14 combats dans l'UFC. Ça s'est mal terminé pour Barriot là, récemment. Écoute, il était sur un peu sur un déclin. Là. C'est des défaites par-dessus des défaites pour lui, malheureusement. Puis c'est un gars qui, honnêtement, a fait sa marque. 14 combats dans l'UFC, là, pour vous autres, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais soyons honnêtes, là, c'est énorme pour un Québécois. Et là, ben, il vient de s'entendre avec l'UFC pour en disputer au moins un 15e combat. Et ce sera devant son public, chez lui, à Montréal, au Centre Bell, le 10 mai prochain. Écoute, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de gala de l'UFC à Montréal. La dernière fois, ça mettait en vedette un certain Georges St-Pierre. Mm-hmm. Donc, c'est un peu un historique, qu'est-ce qui se passe pour Marc-André Barriot. Je pense que c'est une occasion unique pour lui de pouvoir combattre devant les siens, de peut-être également changer le bateau de bord. Mais écoute, Marc-André Barriot ne rajeunit pas. Là. Je pense qu'il est 34 ans à 34 ans.
En UFC, ça commence à être vieux. Là. Ouais, c'est ça.
Oui, ben c'est ça. Il en reste pas mal moins qu'il en avait devant lui. Mais là, il va se battre contre Bruno Silva. Bruno Silva, qui est un bon combattant, 23 victoires, 12 défaites. Je pense que ça va être un beau test, mais moi, je serais pas surpris. Puis ça, je dis ça en toute modestie, puis j'ai pas d'informations. Là. Mais je serais pas surpris que ce soit le dernier combat de Marc-André Barriot, perd ou gagne, parce que le contexte est trop parfait. Tu te bats chez vous, au Centre Bell, tu vas disputer ton 15e combat dans l'UFC. Je pense que pour lui, là, ça serait un bon moment de se retirer après ça. Tu sais, il aurait voulu là, atteindre un combat pour la ceinture, puis je le comprends. Sauf qu'en même temps, ce qu'il a réussi, c'est exceptionnel. Ce qu'il a fait, ça lui enlève absolument rien. Il a réussi ce que très peu ont réussi, c'est-à-dire de combattre dans l'UFC. Il est allé en Corée, il est allé un peu partout au Canada, il est allé à Vegas. Il s'est promené grâce à son sport. Il a réussi, chapeau à lui. Puis si c'est ça qui va mettre fin à sa carrière, un combat au Centre Bell, ben il va sortir par la grande porte. Mm-hmm. Alors, je lui souhaite le meilleur. Honnêtement, très fier de lui. Moi, c'est un petit gars avec qui j'ai joué au football. Je le connais très bien. Puis de voir aujourd'hui qu'il fait partie des têtes d'affiche pour un combat, un gala de la UFC à Montréal. Honnêtement, c'est tout un exploit.
Puis on en reparlera au mois de mai, c'est pas mal certain de cet affrontement-là. Olivier Bourgogne.
Qu'on va mettre la table la veille à ce combat-là parce que ça va être très attendu.
On s'en reparlera sûrement. Olivier, un grand merci pour ton temps puis rendez-vous jeudi prochain.
Au plaisir, bye-bye.